Eh bien, bonjour frères et sœurs, joyeuse fête des pains sans levain. Nous sommes réunis aujourd'hui le dernier jour de la fête en 2019. Ça tombe un vendredi. Nous allons donc avoir 2 jours de repos de suite. Et ça, c'est vraiment exceptionnel et très apprécié. Je me souviens d'avoir lu un écrivain qui s'appelait Jared Lieberman qui a dit à un moment donné, je ne peux pas croire que la Bible voulait que le message de Dieu soit qu'il n'y ait qu'un seul jour de repos sur 7. Il a dû avoir quelques jours de repos perdus quelque part, parce que lui, il voulait plus qu'un seul jour. Eh bien, au moment du premier jour de la fête des pains sans levain, nous avons regardé quelques fausses valeurs qui sont très en vue dans le monde actuel. Aujourd'hui, nous allons parler de vraies valeurs, de valeurs qui sont véridiques. La devise de l'impasse de collège, quand j'étais étudiant là à faire mes études en théologie, était de retrouver de vraies valeurs. Et c'était une devise qui avait son importance. Est-ce que nous savons quelles sont de vraies valeurs selon Dieu? Comme j'ai dit la semaine dernière, nous avons regardé des fausses valeurs qui peuvent être à la base des choix de beaucoup de personnes dans le monde. Et nous aussi, si nous ne faisons pas attention, qu'est-ce qu'on peut faire alors pour enlever ces fausses valeurs? Eh bien, il faut les remplacer avec de vraies valeurs. Un peu comme le fait de faire sortir de l'air d'un verre à eau. Comment est-ce qu'on arrive à le sortir? C'est difficile. Sauf si on le remplit d'eau. Et alors quand nous remplissons nos esprits de vraies valeurs, nous allons chasser des mauvaises valeurs. Alors aujourd'hui, nous allons regarder des valeurs qui ont une grande importance aux yeux de Dieu. Des valeurs qui inspirent Dieu et qui le motivent. C'est à la base de ce que Dieu fait. Aujourd'hui, nous allons les étudier pour mieux comprendre le système des valeurs de notre Créateur. Ainsi, nous pourrons, à notre tour, être sûrs que nos valeurs sont les siennes, sont les valeurs de Dieu également. Alors, nous allons regarder 6 vraies valeurs à la lumière de la Bible aujourd'hui. Première vraie valeur, le contact avec Dieu. Le contact avec Dieu. Regardons Jérémie chapitre 9, versets 23 et 24. Jérémie chapitre 9, versets 23 et 24. Le contact avec Dieu n'est pas une chose à prendre à la légère. Bien au contraire, c'est un vrai privilège que peu de gens peuvent avoir aujourd'hui. Jérémie chapitre 9, verset 23. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Dieu prend plaisir quand nous mettons de l'importance à avoir contact avec lui. Connaître Dieu, c'est à cela qu'il prend plaisir. C'est un plaisir pour notre Créateur quand nous cherchons à avoir un contact avec lui, à pouvoir communiquer avec lui et à permettre à Dieu de nous enseigner de communiquer avec nous. Abraham était un homme fort riche dans la Bible. Et pourtant, il n'est pas connu surtout pour avoir eu de beaucoup d'argent, beaucoup de biens matériaux. Si on pense à Abraham, quelle est la chose pour laquelle on va penser à lui avant tout? C'est qu'il est connu comme étant l'ami de Dieu. Ça, c'est quelque chose de formidable, d'inimaginable presque, qu'un être humain puisse être appelé l'ami de Dieu. Et pourtant, c'est ce que nous trouvons dans Jacques chapitre 2, verset 23. Abraham était l'ami de Dieu. Ce contact avec Dieu était très important pour lui, un grand privilège, un grand atout, quelque chose qui était très important pour Abraham. C'est une des raisons pour laquelle il est appelé le père des gens de foi. Il est le père des gens de foi à cause de son contact et sa confiance en l'Éternel. Regardons également Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. À partir du verset 11, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11. c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont dans la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ça, c'était le cas pour nous avant notre appel. Les Juifs, au moins, les Juifs physiques, au moins, ils connaissent un petit peu le vrai Dieu. Mais avant notre appel, nous n'avons pas vraiment connu l'Éternel, comme nous pouvons le connaître maintenant. Il s'est révélé à nous. Et Paul dit, souvenez-vous comme vous étiez avant. Souvenez-vous que vous étiez coupés de Dieu, que vous ne connaissiez pas le vrai Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Et maintenant, nous le connaissons. Quel privilège pour nous de pouvoir connaître Dieu. Est-ce que nous nous souvenons de cela? C'est une bonne chose à faire à l'époque de la fête des pains sans levain, de nous souvenir de comment c'était avant que Dieu est venu nous chercher, nous réveiller, nous ouvrir l'esprit à sa vérité. Dieu met une très grande valeur à cela, à cette connaissance de l'Éternel. Il sait à quel point c'est important. Sans ce contact-là, dans la physique, dans la vie physique, nous n'avons rien qui va durer. La seule chose qui va durer passe par notre contact avec l'Éternel. Et ce contact est possible par ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Verset 13. Mais maintenant, souvenez-vous qu'avant vous n'avez pas ce contact, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix. Verset 18. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous avons été rapprochés de Dieu le Père par le sang de Jésus-Christ. C'est comme cela que ce contact est possible, par le sacrifice de Christ que nous avons commémoré au moment de la Pâque, il y a juste une semaine de cela. Acte chapitre 18, donne une autre description de la valeur de ce contact que nous pouvons avoir avec notre Créateur. Acte chapitre 17, verset 22. Acte chapitre 17, au verset 22. Nous lisons, Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit, « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable de l'or, de l'argent ou de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie des hommes. Dieu, sans tenir compte d'être en ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dieu a voulu que les hommes le cherchent, et qu'il le cherche en tâtonnant, bien que, c'est vrai, il n'est pas loin de chacun de nous, il est proche, mais Dieu se cache de la plupart des êtres humains sur la terre, pour le moment. Un jour, il va se révéler à tout le monde, chaque être humain aura l'occasion de le connaître, mais pour le moment, ce n'est qu'un petit troupeau à qui Dieu se révèle, à qui il retire le voile d'aveuglement spirituel qui les empêche de voir le Créateur. Les hommes le cherchent en tâtonnant. À nous, Dieu a permis de le trouver. Quel privilège pour nous de pouvoir avoir ce contact. Il le permet à nous, non pas parce que nous sommes plus intelligents, plus capables ou autres. En fait, nous sommes les plus faibles sur la terre. C'est simplement par sa grâce. Les prémices vont recevoir ce privilège maintenant et pour d'autres, ça viendra plus tard. Dieu choisit les faibles du monde pour montrer aux forts que c'est uniquement par sa force et par son esprit que le salut et la réussite est possible. Mais nous ne devons jamais perdre de vue qu'à nous, Dieu permet de le connaître. Et ça, c'est un énorme privilège. Le plus grand privilège que nous puissions avoir dans la vie commence par ça, le fait de pouvoir connaître Dieu. Quelle importance a notre contact avec l'Éternel? Nos prières, nos études de la Bible, c'est comme ça que Dieu nous parle. Nous lui parlons par la prière, il nous parle par l'étude biblique. Quelle importance est-ce que cela a pour nous? Si nous sautons facilement d'une prière à Dieu chaque jour, ou si nous passons à côté de l'étude biblique parce que nous trouvons qu'il y a autre chose de plus important, qu'est-ce que cela veut dire à propos de l'importance que nous mettons à maintenir ce contact, ce grand cadeau que Dieu nous donne? Ça, mes frères et sœurs, c'est une très grande valeur que de pouvoir avoir un contact avec Dieu. Alors ne passons pas à côté des moyens que Dieu met à notre disposition pour avoir ce contact. Par la prière, par l'étude de sa parole, la méditation sur sa parole, le jeûne, les autres outils spirituels qui nous permettent de maintenir notre contact proche avec notre Créateur. C'est absolument une vraie et une grande valeur. Deuxième vraie valeur que nous allons regarder aujourd'hui, l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. Qu'est-ce que vous préfériez? Si vous aviez un choix à faire, est-ce que vous préfériez avoir 1 million d'euros ou votre première revue de l'Église qui commençait à ouvrir votre esprit vers la vérité? Qu'est-ce qui aurait plus d'importance pour nous? Notre contact, notre entrée en contact avec la vérité ou des richesses physiques? Question intéressante à se poser. Ambrose Bierce, un écrivain américain du 19e siècle, a dit « La découverte de la vérité est le seul but de la philosophie et elle a une bonne chance d'exister jusqu'à la fin des temps. » Il voulait dire par là que les hommes ont du mal à vraiment découvrir ce que c'est que la vérité. Mais quand Dieu nous ouvre l'esprit pour comprendre sa parole, il nous permet aussi de comprendre la vérité, ce que Dieu appelle la vérité. La vérité sur son plan, le message, l'évangile, ce que Dieu est en train de faire, ses lois, sa volonté, tout cela est la vérité. Matthieu chapitre 13, verset 17. Matthieu chapitre 13, verset 17. Commençons verset 16. Matthieu chapitre 13, verset 16 et 17. Jésus a dit à ses disciples, « Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ils n'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ils n'ont pas entendu. » C'était un très grand désir de ceux qui nous ont précédés, les hommes et les femmes de Dieu dans l'Ancien Testament. Ils n'ont compris qu'en partie ce que Dieu était en train de faire. Aujourd'hui, Dieu nous permet de comprendre beaucoup plus avec la venue de Jésus-Christ. Est-ce que nous aurions choisi la vérité de Dieu ou ce bol de potage aux lentilles, vendre notre droit d'aînesse? En fait, ça fait partie d'un droit que Dieu nous donne, de connaître la vérité. Pourrions-nous passer à côté pour quelque chose de bien moins valable, qui a moins de valeur? Bien, nous en connaissons. Si nous sommes dans l'Église depuis un moment, nous avons connu des gens qui ont fait exactement cela. Ils ont laissé tomber ce grand cadeau, ce trésor pour s'attacher à des choses complètement vaines. L'amour de la vérité. Est-ce que nous avons l'amour de la vérité? La vérité en général, dire la vérité, ne pas dire de mensonge, et la vérité plus précisément dans le sens de ce que Dieu nous révèle dans la Bible. 2 Thessaloniciens, s'il vous plaît, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Il y a des gens qui occupent cette mauvaise fonction aujourd'hui. Nous savons que juste avant le retour de Jésus-Christ, ça va arriver à son apogée avec le faux prophète et la bête. Descendons au verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Paul parle peut-être de lui-même. Il y avait une première accomplissement de cette prophétie, de son vivant peut-être. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Pour être sauvé, il faut avoir l'amour de la vérité. Il faut détester le mensonge. Et il faut vraiment apprécier profondément ce que Dieu nous révèle à propos de son plan, de sa loi et de sa volonté pour nous. Aussi, verset 11, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, à ce qui est faux, soient condamnés. Nous devons, frères et sœurs, aimer la vérité. Aimer la vérité. Aujourd'hui, la plupart des gens se contentent de mensonges, ou de demi-mensonges, ou de demi-vérités, de mythes, de slogans, de philosophie, de théorie, d'espérance irréelle, irréalisable. Nous devons aimer la vérité que Dieu nous révèle dans sa parole. Nous le prenons pour acquis aujourd'hui que les gens vont dire des mensonges. Nous sommes toujours sur notre garde. Est-ce que quelqu'un nous raconte un mensonge? Est-ce que nos employés racontent un mensonge pour expliquer, pour s'excuser d'avoir manqué un jour au travail? Ou est-ce qu'on peut compter sur l'honnêteté d'un ouvrier qui répare quelque chose dans la maison? Est-ce qu'il ne va pas nous facturer plus de temps que ce qu'il a vraiment travaillé? Nous sommes constamment sur nos gardes parce que les gens ne croient pas, n'aiment pas dire la vérité. Ils croient que le mensonge va les avancer davantage. Dieu aime la vérité. Il veut que nous aussi, nous ayons l'amour de la vérité. Très important à ses yeux. Jérémie chapitre 9. Jérémie chapitre 9, à partir du verset 1. Jérémie, prophète Jérémie chapitre 9, verset 1. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais, car ce sont tous des adultères, c'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté, et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Que chacun se tienne en garde contre son ami, qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper, et tout ami répand des calomnies. Ils se jouent les uns des autres, ils ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir, ils étudient à faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par la fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, voici je les sonderai, je les éprouverai, car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple? Leur langue est un trait meurtrier, ils ne disent que des mensonges, de la bouche ils parlent de paix à leur prochain, et au fond du cœur ils lui dressent des pièges. Ne les châtierai-je pas pour ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Sur les montagnes je veux pleurer et gémir, sur les plaines du désert je prononce une complainte, car elles sont brûlées, personne n'y passe. On n'y entend plus la voix des troupeaux, les oiseaux du ciel et les bêtes ont pris la fuite, ont disparu. Et ainsi de suite. Verset 9, verset 12. Où est l'homme sage qui comprenne ces choses? Qui le dise, celui qui a la bouche de l'Éternel à parler? Pourquoi le pays est-il détruit, brûlé comme un désert où personne ne passe? L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mis devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix, et qui ne l'ont point suivi, parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur, ils sont allés après les Baals, comme leurs pères le leur ont appris. Et ensuite, Dieu explique qu'il devait punir son peuple, en grande partie à cause du mensonge. Quand un peuple arrive à ne plus aimer la vérité, et à pratiquer régulièrement le mensonge à tel point qu'il ne s'en rend même plus compte de ce qu'ils font, eh bien ça, c'est une horreur à l'Éternel. Et Dieu a puni Israël à cause de sa malhonnêteté. Dans notre 21e siècle, nos sociétés deviennent de plus en plus comme ça. On ne peut plus compter sur les êtres humains, sur qui que ce soit, à vraiment nous dire franchement la vérité. Nos élus, non. Nos responsables, non. Même les policiers, pas toujours, non. Les hommes d'affaires, non. Qui? C'est désolant de se trouver dans une telle situation. Nous, en revanche, nous devons aimer la vérité, aimer dire la vérité, avoir une horreur de raconter quelque chose qui n'est pas vrai. Ça, c'est un reflet du caractère de notre Père Céleste. Si nous n'aimons pas la vérité ne pourra pas nous transformer comme Dieu le veut. Rémy de Gourmont a dit « Ce qui est terrible dans la quête de la vérité, c'est qu'on la trouve. » Si on cherche la vérité, on peut la trouver. Et quand on trouve la vérité nous change, nous transforme en mieux. Et c'est ça qui nous aide à développer le caractère de notre Père Céleste. Nous devons aimer la vérité qui nous est révélée dans la Bible, et le simple fait de dire la vérité à toute occasion, dans toutes circonstances. Ça, c'est une vraie valeur de notre Père Céleste. Troisième vraie valeur que la Bible révèle pour nous, des relations personnelles harmonieuses, d'être en paix entre nous, notamment en famille, mais pas seulement en famille, dans notre famille spirituelle. Et en fait, nous devrions chercher des relations harmonieuses avec tous ceux avec qui nous avons un contact, être en paix avec ceux qui nous entourent. Jean chapitre 1, l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 12. Jean, chapitre 1, verset 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Dieu est en train de créer une famille, sa famille. Et il veut avoir une famille paisible, en paix, tranquille, entre membres. Tous les êtres humains ont la potentialité de faire partie de cette famille. C'est notre destin, notre destinée en tant qu'être humain de passer toute l'éternité ensemble avec nos frères et sœurs. Et un jour, ça voudrait dire tous ceux qui seront fidèles à Dieu, finalement, des milliards et des milliards de personnes. C'est notre destin de passer l'éternité ensemble. Alors nous devons apprendre maintenant comment avoir des relations harmonieuses et paisibles avec nos semblables, parce que c'est notre vocation pendant toute l'éternité. Nous sommes appelés à faire partie de cette famille divine, et Dieu veut que sa famille soit en paix. Regardons aussi Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, à partir du verset 46. Matthieu chapitre 12, verset 46. Matthieu chapitre 12, verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant sa main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Nous pourrons, nous allons passer l'éternité ensemble. Et nous ne pourrons pas pendant toute l'éternité nous serrer les dents avec ceux que nous n'aimons pas. Il faut que je supporte. Non, nous devons apprendre à nous entendre pour pouvoir passer une éternité dans la paix, dans l'harmonie. C'est ce que Dieu désire. Nous sommes destinés à être frères et sœurs ensemble pendant toute l'éternité. Alors Dieu nous donne, Dieu nous offre des occasions pendant cette vie d'apprendre à nous entendre avec des gens qui sont pour nous parfois difficiles. Et c'est différent, nous avons tous des tempéraments et des personnalités différentes. Nous allons facilement nous entendre avec certains et ça sera un défi davantage pour d'autres personnes. Mais tout cela nous est donné comme salle de classe. Pour apprendre comment faire avec ceux qui n'ont pas le même tempérament que nous, ceux qui n'ont pas la même personnalité, ceux qui n'apprécient pas les mêmes choses, ceux qui peuvent être pour nous difficiles, et ça arrive partout dans la vie, ça arrive aussi dans l'Église de Dieu. Parfois, il y a des gens qui sont pour nous plus difficiles, et nous devons regarder ça comme un défi pour apprendre comment est-ce que je dois m'y prendre pour que les choses aillent bien, que nous ayons la paix entre nous. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Verset 14. Éphésiens chapitre 3, verset 14. Paul dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. La famille de Dieu a une grande valeur à ses yeux. Et notre famille physique, notre famille spirituelle. Maintenant, je sais, certaines familles sont plus difficiles que d'autres. Si vous avez une famille facile, chapeau, c'est formidable, je suis heureux pour vous. Toutes les familles ne seront pas comme ça. Nous pouvons avoir des ennuis, nous pouvons avoir des gens qui peuvent, les membres de la famille qui peuvent nous chiffonner, qui peut nous mettre les bâtons dans les roues, qui peut nous narguer à cause de ce que nous croyons, ce que nous faisons. C'est parfois, c'est plus comme ça dans la famille que c'est à l'extérieur de la famille, selon la famille. Mais est-ce que nos familles physiques et spirituelles sont vraiment une vraie valeur pour nous? Sont de vraies valeurs pour nous? Est-ce que nous sommes disposés à faire un sacrifice pour avoir de meilleurs rapport avec les membres de nos familles pour atteindre cet idéal, que ce soit physiquement ou que ce soit spirituellement au sein de l'Église de Dieu. C'est une grande valeur pour notre Père céleste, de relations personnelles harmonieuses. Et ça devrait être le cas pour nous aussi. Nous devrions chercher à avoir ce genre de relations paisibles. Pas seulement paisibles, mais harmonieuses, où nous nous entendons bien les uns avec les autres, où nous mettons l'accent sur ce que nous avons en commun plutôt que ce que nous n'avons pas en commun. Ça, c'est une clé pour commencer à chercher et à développer ces relations personnelles harmonieuses, notamment en famille. Ça, c'est une vraie valeur selon Dieu. Une quatrième vraie valeur, c'est le caractère divin. Le caractère divin. Le monde dans lequel nous vivons n'honore pas le vrai caractère selon Dieu. Mais aux yeux de Dieu, c'est très important. Et rappelons-nous, quand nous parlons de caractère divin. Nous parlons du fait de pouvoir distinguer entre le bien et le mal, de choisir de faire le bien consciemment et de résister à la tentation de faire des compromis, de faire le mal. Savoir la différence, choisir le bien et nous y accrocher. Résister à la tentation de faire le contraire. C'est ça le caractère divin. Et ça veut dire parfois que nous allons souffrir. Parfois, nous souffrons pour faire ce qui est juste devant Dieu et nous résistons à la tentation, à la pression de faire le contraire. Il y a une dignité de résister l'opposition quand on souffre. Il y a une dignité dans la souffrance quand c'est la souffrance pour la justice. Maintenant, il peut avoir une dignité dans la souffrance tout court. Nous sommes impressionnés parfois par des personnes qui, dans une épreuve de santé, ils ressentent des douleurs très intenses et puis ils s'accrochent, ils ne se plaignent pas, ils persévèrent au milieu de cette épreuve. Il y a une dignité à cela. Et je dirais encore plus quand nous souffrons pour la justice. Et ça aussi, ça a une grande valeur aux yeux de Dieu. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Verset 7. 1 Pierre chapitre 1, verset 7. Commençons au verset 6. 1 Jean chapitre 1, verset 6. C'est là ce que fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Quand nous passons par une épreuve, nous résistons à la tentation de faire un compromis avec la loi de Dieu, la volonté de Dieu, notre caractère grandit. Notre caractère se fortifie, se trempe davantage. Et le résultat de tout cela, c'est la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Qu'est-ce qu'on choisirait, encore une fois? Si on avait le choix entre une épreuve et de l'or, qu'est-ce qu'on choisirait? Eh bien, spirituellement, il faudra choisir l'épreuve. Je ne suis pas en train de dire que ça serait facile. Au contraire. Mais spirituellement, c'est ce qui est plus important. L'épreuve de votre foi est plus précieuse que l'or périssable. L'épreuve de votre foi est plus valable que de l'or, que des richesses physiques. Parce que là, ça dure dans le temps. Ça va durer pendant toute l'éternité, le caractère que nous développons ou que Dieu développe en nous à travers son Saint-Esprit. Psaume 15. Psaume 15. Un cantique que nous chantons parfois, basé sur ce psaume, tiré de ce psaume. Psaume 15, psaume de David. « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un sermon à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. » Ça, c'est un portrait du caractère divin. Quelqu'un qui fait le bien, même quand ça lui coûte quelque chose, même quand il pourrait s'extriquer d'une situation en mentant ou en faisant quelque chose de malhonnête. Est-ce que ce principe fait partie de nos vies? Est-ce que nous choisissons le bien même à notre perte, comme cet homme dans Psaume 15? Ça devrait être le cas pour nous. Ne tenir à la bonne chose, à ce qui est juste, en toutes circonstances. Ça doit être une règle de notre vie. Mon fils, a dit un homme d'affaires réussi, il y a deux choses qui sont vitales si tu veux réussir dans les affaires. Que sont-elles, papa? l'honnêteté et la sagesse. L'honnêteté et la sagesse. Mais qu'est-ce que l'honnêteté? Demande le fils. Toujours, quoi qu'il arrive et malgré toutes les difficultés que cela puisse amener, il faut toujours garder ta parole quand tu la donnes. Et alors la sagesse, c'est quoi, papa? La sagesse, c'est de ne jamais la donner, ta parole. C'est vrai que parfois, il vaut mieux ne pas se prononcer plutôt que de se prononcer mal, mais une fois que nous nous sommes prononcés, nous devons aller jusqu'au bout. Si nous avons pris un engagement, nous devrions faire tout notre possible pour le maintenir. C'est ça, le caractère divin. Distinguer le bien et le mal, choisir de faire ce qui est bien selon Dieu et résister à toute tentation contraire. Ça, c'est le caractère. Et ça, c'est une vraie valeur selon Dieu. Cinquième vraie valeur d'après Dieu, l'humilité. L'humilité. Nous, souvent, en tant qu'êtres humains, nous exaltons les affectations de l'orgueil. Mais la Bible dit que l'orgueil nous sépare de Dieu. Si nous nous laissons aller à l'orgueil, être fiers de nous, eh bien, déjà, il y a une séparation entre nous et l'Éternel. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, verset 6. Commençons verset 5 pour voir un peu le contexte ici. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voulons-nous que Dieu nous résiste? Ça serait une chose terrible. Si Dieu nous résiste, on va arriver à quoi? Qu'est-ce qu'on va réussir à faire si Dieu, le Tout-Puissant, nous résiste? Mais la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Maintenant, l'humilité doit être véridique. Il y a beaucoup de gens qui manifestent une fausse humilité. Et même en déclarant leur humilité, en fait, ils sont en train de se prôner pour leur qualité. Il y a une façon indirecte de se louer en faisant semblant être humble. Notre humilité doit vraiment être sincère, de reconnaître que sans Dieu, nous ne sommes vraiment rien. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Si nous avons quelques capacités ou quelques dons, quelques habilités à faire quelque chose, c'est que Dieu nous l'a donné. Il y a peu de choses pour lesquels nous pouvons nous vanter. Rien, en fait, parce que Dieu nous donne tout ce que nous avons. John Ruskin, un écrivain anglais, a écrit « L'orgueil est au fond de toutes les erreurs. » Et quand j'essaie de réfléchir sur mes erreurs dans la vie, je regarde en arrière, très souvent, l'orgueil y est pour quelque chose. Je dois l'admettre. C'est un bon sujet de réflexion, peut-être, si vous n'avez jamais fait repasser certaines de vos erreurs dans le passé. Est-ce que l'orgueil y était mêlé pour quelque chose dans ses origines? Eh bien, très souvent, c'est le cas. Ésaïe, chapitre 66. Ésaïe 66, verset 2. Ésaïe, chapitre 66, verset 2. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre, qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Celui qui a l'esprit abattu, celui qui est humble, qui reconnaît sa petitesse devant Dieu, sur celui qui craint ma parole. Dieu ne regarde pas, il ne nous regarde pas à cause de notre grandeur, à cause de nos formidables qualités. Dieu porte son regard vers ceux qui sont humbles, ceux qui reconnaissent leur petitesse devant Dieu, qui n'ont pas le regard centré sur eux-mêmes pour se vanter de ce qu'ils peuvent accomplir. Si nous voulons que Dieu soit notre partenaire, on va dire, si on veut que Dieu coopère avec nous, qu'il nous aide, qu'il ne nous résiste pas, si nous voulons qu'il souhaite nous aider, si nous voulons que nos vies soient importantes à ses yeux, alors l'humilité doit être très importante pour nous. Nous devons chercher à avoir l'humilité, à vivre dans l'humilité, parce que c'est très important aux yeux de notre Créateur. J'ai lu une anecdote intéressante à propos de Johannes Brahms, un très grand compositeur, mais aussi un homme qui a montré une grande humilité, notamment dans cet exemple-là. Il y avait un amateur de musique qui a rencontré par hasard ce grand compositeur, Johannes Brahms, et lorsqu'il l'a reconnu, il est venu avec une feuille de papier, il a dit « Maître, voudriez-vous écrire ici une petite portion d'un chef-d'œuvre et le signer pour que je puisse le garder en souvenir de sa rencontre ?» Brahms a pris le crayon, il a noté les premières notes du Danube bleu par Johann Strauss, puis l'a signé « Malheureusement, pas par moi, Johannes Brahms ». Formidable exemple d'humilité, n'est-ce pas? Il aurait pu se vanter de ce qu'il avait fait. Il préférait reconnaître la grandeur de quelqu'un d'autre. Et il a montré par là son humilité. Nous devons revêtir l'humilité, comme la Bible dit ailleurs. Ça doit être comme un vêtement que nous portons, que nous ayons toujours ces sentiments d'humilité en nous. C'est une vraie valeur aux yeux de Dieu. La sixième et la dernière que nous regardons aujourd'hui, la sixième vraie valeur, c'est la sagesse. La sagesse. Proverbes chapitre 4. La sagesse, de pouvoir distinguer entre ce qui est la bonne chose à faire, ce qu'il faut vraiment faire dans différentes circonstances, pour avoir le résultat escompté, et comment éviter de mauvais choix qui vont nous mettre dans la difficulté, qui vont nous empêcher de recevoir ce que nous voudrions, avoir le résultat que nous voudrions avoir. Proverbes chapitre 4, verset 5. Proverbes chapitre 4, verset 5. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera, aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse, acquiers la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera, elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce et elle t'ornera d'une magnifique diadème. Et ça, c'est le thème de tout le livre des Proverbes. C'est comment être sage, comment acquérir la sagesse. La sagesse est utile dans toutes les circonstances et peut nous aider à trouver une résolution heureuse à toutes les différentes circonstances dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Proverbes chapitre 8, tournons quelques pages. Proverbes 8, verset 10. Proverbes chapitre 8, verset 10. C'est la sagesse qui parle. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieuse. Que la sagesse vaut mieux, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. La sagesse n'a pas de valeur. Elle est au-delà de tout ce qui est valable matériellement. La sagesse, selon Dieu, nous guide vers la vie éternelle. Et il n'y a pas, on ne peut pas mettre de prix à cela. Nous citons assez souvent l'homme le plus sage qui ait jamais existé, mais nous savons aussi ce qui est arrivé à Salomon. Malgré sa sagesse, il a oublié ce qu'il y avait de plus important. Il avait la sagesse physique, mais il a oublié la sagesse spirituelle, qui est de loin le plus important. Rappelons-nous ce qui s'est passé, 2 Chroniques chapitre 1. 2 Chroniques chapitre 1, verset 7. Il a commencé bien, mais apparemment il n'a pas fini bien. 2 Chroniques chapitre 1, verset 7. Pendant la nuit, Dieu apparu à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance. Tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, l'Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand ?» Et Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens, de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Dieu apprécie beaucoup de voir ce désir d'avoir la sagesse pour le bien-être d'autrui, pour le bien-être du peuple sur lequel il allait régner. Et Dieu l'a richement récompensé, non seulement la sagesse qu'il demandait, mais beaucoup d'autres choses en plus. Mais ça n'a pas bien fini pour Salomon. Un roi chapitre 11. Ceci nous montre qu'il y a des limites à la sagesse humaine et qu'il nous faut aussi la sagesse au niveau spirituel pour vraiment faire la part des choses. Un roi chapitre 11, verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens, des Éthiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles et ne viendront point chez vous, et elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Salomon pouvait avoir les femmes les plus belles de toutes les régions autour. Et il aurait dû écouter la petite voix qui lui disait, « Dieu a dit qu'il ne fallait pas faire ça. » Et il a cédé à la faiblesse de la chair. Continuons verset 3. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Verset 9. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui est apparu deux fois. Il avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu agis de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. » Grave punition. Salomon a si bien commencé, Dieu lui a donné une sagesse, au moins sur le plan physique, qui était exemplaire. Aucun homme comme ça, auparavant, mais il s'est laissé tenter par les plaisirs de la chair. Et il a permis à ses femmes de détourner son cœur, alors que Dieu lui avait dit qu'il ne fallait pas chercher de femmes parmi ces nations-là. Nous devons appliquer la sagesse du début à la fin. Sagesse au niveau physique, sagesse au niveau spirituel, et nous y accrocher. Nous apprenons la sagesse en faisant. Grande partie de la sagesse s'apprend par l'expérience. On apprend comment on prend de bonnes décisions, parfois en faisant de mauvaises décisions. Mais il faut toujours apprendre. Il faut saisir la leçon. Horace a écrit, « La sagesse n'est pas sagesse lorsqu'elle vient des livres uniquement. » Et il y a une part de vérité. C'est vécu. Nous devons vivre l'expérience. C'est ainsi que nous apprenons la vraie sagesse. Il faut méditer la vie. Il faut apprendre des leçons de nos expériences, les expériences d'autrui aussi, ce que nous observons autour de nous. Nous pouvons apprendre beaucoup de sagesse. Quels sont des points communs entre ces six vraies valeurs que nous avons vues? Nous avons posé cette question à la fin du sermon lors du premier jour. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre les fausses valeurs? Et qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces vraies valeurs? Bien, répondons à cette question avant de terminer. Matthieu chapitre 6. Matthieu 6. Matthieu chapitre 6, verset 19. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Ces vraies valeurs existeront au ciel. C'est un trésor pour nous. Nous devons ramasser des trésors aux cieux, c'est-à-dire des valeurs qui sont vraiment des valeurs pour Dieu et qui ont un effet sur notre vie pendant toute l'éternité. Le caractère divin va nous suivre pendant toute notre existence dans l'éternité devant nous. Et ainsi de suite. Le contact avec Dieu va continuer. Et ça sera le cas, ça sera une partie de notre vie pendant toujours. Ce sont des choses qui durent. Ce sont des trésors au ciel. Les fausses valeurs pour nous aider à ramasser certains trésors sur terre, peut-être, qui durent jusqu'à un certain point. Mais les trésors que nous amassons au ciel, ces trésors-là vont durer. Vont durer pour l'éternité. Ésaïe 55. Ésaïe 55, verset 1. Ésaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Ça, c'est des vraies valeurs de Dieu, des mets succulents sur le plan spirituel, et qui vont nous rassasier pendant toute l'éternité. Parce que ces vraies valeurs nous amènent à la vie éternelle. À la vie éternelle. Il n'y a pas de plus grande récompense. Et finalement, 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, et se renouvelle par ses vraies valeurs. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Et ces vraies valeurs sont invisibles, pour la plupart, mais ont vraiment de la valeur. Ce sont vraiment de vraies valeurs, puisque valable aux yeux de Dieu. Comment pouvons-nous croître dans ces vraies valeurs? Eh bien, nous devons remercier Dieu, pour commencer. Remercier Dieu de nous avoir permis de comprendre quelles sont les vraies valeurs. Cela nous donnera un état d'esprit où nous allons chercher à les avoir, à les atteindre, à nous réjouir dans les vraies valeurs. Si nous sommes reconnaissants envers Dieu de pouvoir les comprendre, de savoir quelles sont ces valeurs, eh bien, elles deviendront plus importantes pour nous. Et en mettant en œuvre ces vraies valeurs dans nos vies, nous allons éloigner les fausses valeurs. Comme quand on verse de l'eau dans un verre, l'air s'en va. Frères et sœurs, je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos efforts pour regagner les vraies valeurs.